temps, on y reviendra. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le bzou, bien sûr, va tuer la grand-mère, et là, on a le rituel du cochon. Il y a un très bon technicien. Hein, voilà, il découpe en dés, il met le sang dans la bouteille pour faire le boudin. Il va, voilà. Et donc, il va vraiment préparer la grand-mère comme on prépare le cochon. Il va se coucher, bien sûr, à la place de la grand-mère. Et quand la petite fille arrive, elle tape à la porte. Hein, et bien sûr, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Hein, c'est assez classique dans toutes les versions. Et donc, il lui dit, tu n'as qu'à passer par la chatière. Donc, la phrase importante, elle nous dit qu'elle rentre les pieds devant dans l'antre de la grand-mère par la chatière. Alors, les pieds devant, quand on rentre quelque part les pieds devant, en général, c'est qu'on n'est pas en très bonne santé. Hein, voilà, c'est vraiment le terme par excellence de la mort. Hein. Et toute initiation commence par une mort symbolique. Donc, du moment qu'elle entre là, elle sait très bien que ça. Son identité de petite fille, on ne le sait pas encore, mais tout le monde le sait, c'est la petite fille, c'est fini. Elle va rentrer dans une phase d'initiation qui va la transformer, qui va la changer au niveau identitaire. Ce conte est aussi un conte qui prépare au deuil de la grand-mère, de façon très détournée. Mais si je suis petite fille et que je deviens jeune fille, je serai bientôt mère, ma mère deviendra grand-mère, et il y a des grandes chances que ma grand-mère disparaisse. D'accord? Donc il y a aussi tout un endroit de la conscience de la chaîne des femmes qui se met en place au travers de ce conte-là et de son inscription dans cette chaîne-là. Il y a un côté génésique, on va dire, qui est vraiment très important et qui va continuer à travailler. Hein? Voilà. Donc manger sa grand-mère. Côté cannibale, voilà, il faut le voir bien sûr sur le plan informationnel, c'est du cannibalisme absolument tabou. Sur le plan symbolique, hein, et d'ailleurs on nous dit qu'elle fait sa fricassée de grand-mère, hein, et elle va boire quoi? Le sang. Et en plus, dans la plupart des versions, elle mange les tétons. D'accord? Donc les deux éléments qui vont lui permettre en fin de compte d'intégrer la maternité, hein, la reproduction. C'est pas n'importe quoi qu'elle mange, hein, et le loup lui signale bien. Voilà, donc le loup lui donne des clés pour qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire. Hein, les animaux souvent vont plutôt prendre le côté informationnel et donner l'interdit tabou, hein, de ce compte-là. Voilà. Mais là dans le loup, non, il est là pour essayer de faire bouger les choses. Hein. Si on n'a pas compris ça, on peut pas comprendre le striptease. Parce que le striptease, pour moi, c'est vraiment le cœur du conte. C'est le moment où elle va jeter au feu tout ce qu'il a désigné comme petite fille. Elle n'aura plus besoin, il a raison, lui. Elle ne sera plus jamais une petite fille. Hein? Donc si on fait l'erreur de dire uniquement une robe, on tombe dans le piège de l'image du script. Si on commence à dire le petit tablier, la petite coiffe, parce qu'il faut penser qu'à 15 ans, les petites filles étaient obligées de se fermer les cheveux dans une coiffe. Ça faisait partie de la tradition. Donc, d'où le petit chaperon rouge que vous retrouvez plus tard, d'accord? Voilà, et donc c'était vraiment très impudique pour une jeune fille de libérer ses cheveux, quoi. Donc là, la coiffe, les petits sabots, etc. Parce qu'à partir de 15 ans, c'est pareil, les sabots, on les mettait plus, on avait les chaussures. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments où quelque part, ce qu'elle met au feu, c'est vraiment tous les éléments vestimentaires qu'il a désignés comme petite fille. Donc là, on sait très bien que la nudité n'est pas un lieu, bien sûr, qui peut passer à l'érotisme, mais il y a beaucoup plus que ça dans cette image-là. Et là, elle va découvrir l'altérité du corps de l'autre, hein, la notion du masculin, et d'ailleurs, la plupart des éléments qu'elle va désigner, les poils, etc., c'est vraiment des éléments qui désignent le corps masculin en tant que tel. Hein. Voilà. Donc, Yvonne Verdier dit aussi qu'on peut réfléchir là-dessus sur comment la grand-mère, quand elle vieillit, peut aussi revenir à des éléments masculins au niveau visuel. Hein. Elle peut de nouveau avoir des poils qui remontent, elle peut avoir. Voilà. Donc, tout ça, c'est un travail après qui est plus pour moi, pour les thérapeutes, mais il y a. Donc, parce qu'il y a cette innocence quand même un peu folle du petit chaperon rouge qu'on a du mal à saisir, là, quoi. C'est ne pas reconnaître sa grand-mère au travers du loup, il faut qu'il soit quand même bien doué pour ce. Voilà. Et quand elle a bien compris, bien sûr, elle va demander à sortir, hein, donc côté scatologique, hein, pour aller faire ses besoins. Voilà. Et donc là, le fil à la patte, on a presque un deuxième cordon ombilical. Mais autant la chatière nous amenait dans l'antre, donc dans l'obscurité, autant la fenêtre nous ramène à la lumière, à la conscience. D'accord? Donc on est vraiment sur un espace où là, l'image déjà bouge complètement. Et ce qu'elle fait, c'est que cette ficelle qu'elle va des fois couper avec un ciseau, comme la tradition le faisait pour le cordon ombilical, hein, là, dans cette version, elle l'attache à un arbre fruitier, pommier, prunier, etc., qui sont tous des symboles de fertilité. Un peu comme si elle avait conscience qu'elle était fertile. D'accord? Mais quelque part, elle n'est pas prête à être encore dans cet endroit-là. Donc, quelque part, elle va prendre la fuite. Et la dernière image est tout à fait magnifique. Il faudrait qu'elle la mette dans toutes les versions, hein, puisque quelque part, les lavandières, dans les traditions de tout cet axe-là, mais ailleurs aussi, ce sont celles qui ont la relation possible avec l'autre monde. C'est-à-dire, l'autre monde, c'est la mort, la naissance. D'accord? Et dans le même mouvement, elles remettent au monde le petit chaperon rouge, dans le drap. Le drap, c'est vraiment le lieu qu'elles ont lavé après l'acte. Et elles mettent le bzou dans le linceul, voilà, dans un même temps. Voilà. Donc, ce récit-là, dans un abstract extrêmement puissant, en fait, nous donne complètement à penser la relation de l'intégration d'une petite fille dans la chaîne des femmes. Ce qui n'est pas rien. Essayez aujourd'hui de trouver un récit, et je dis même dans les néo-versions de Petit Chaperon Rouge, voilà, hein, dans tous les albums que vous pouvez trouver, il y en a c'est innombrable, il y en a Petit Chaperon Rouge, on a des quantités d'albums, mais alors c'est faramineux. Essayez de trouver une version qui reprenne ça avec autant de puissance. Si vous me la trouvez, moi je veux bien, j'en ai vu pas mal, mais jusqu'à présent, pour moi, elles sont relativement décevantes. On en est là avec cette notion. Donc, ce contraire est intéressant dans ce qu'il peut nous donner de la puissance du merveilleux. C'est comment, dans un petit récit qui, quelque part, va s'intégrer aussi rapidement qu'une chanson, et même des fois plus puissamment qu'une chanson, dans la tête de l'enfant, on met en relation un travail de conscientisation extrêmement puissant de la mise en place, de sa place, de sa construction identitaire dans la relation au féminin. Donc on est avec ce récit-là dans une vraie démonstration de cette puissance-là. Mais qu'est-ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que le conteur travaille aussi dans cette conscience-là? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des solutions pour faire passer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut faire une traduction, mais une traduction intelligente sur les données que le conte nous propose. Et pas uniquement un récit qui perd complètement sa puissance symbolique. Si on en fait une anecdote, ça a toujours de la puissance parce que quelque part on réveille quand même des choses. Mais on n'a pas les clés pour travailler avec. Donc moi je défends beaucoup dans Le Conte Merveilleux cette notion d'ethnotexte. Voilà une démonstration extrêmement précise. C'est-à-dire c'est pas pour redire le conte tel qu'il était, on va dire. Parce que quelque part, c'est peut-être pas celui-là qu'on raconte aujourd'hui, mais plutôt de se dire, j'ai tous les éléments pour recréer une version qui prend tous les éléments de cette puissance-là. Donc, quelque part, si on veut être bon traducteur, il faut aussi comprendre le fond des choses. Crois que je vous avais déjà parlé de Claude Bleuton qui traduisait Ballester en auteur galicien, voilà, et qui, quelque part, a passé une semaine pour traduire trois phrases. Et qui disait, je ne veux plus traduire d'auteur mort parce que ce contact-là, je ne l'ai pas, quoi. Et quelque part, on risque de faire des erreurs très, très fortes dans des partis pris, dans des relations. Donc, c'est un petit peu ça. On est avec des textes complexes, même s'ils paraissent simples. Voilà. Donc, il y a derrière tous ces textes-là, des fois des millénaires de sens qui se sont cumulés, qui se sont intégrés, synthétisés. Voilà. Et quand on les a plus, ben on fait de ces textes-là des anecdotes. C'est un petit peu pour moi le risque qu'on a dans la transmission des contes aujourd'hui. OK. À partir de là, ben on peut dire beaucoup de choses encore. Hein. Il y a, il y a, il y a, il y a, je Moi, j'ai lu à peu près 200 articles hein, sur le petit chaperon rouge. Donc, vous faites bien du plaisir. Il y a vraiment, ça fuse dans tous les sens. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est d'un ordre, d'une espèce de gourmandise avec ce conte-là. Il est tellement puissant que quelque part, on peut tirer des fils de tous les côtés. Hein. Donc, je préfère après qu'on rentre dans la discussion. Ça va permettre d'aller peut-être plus dans la perception. Oui.
Je parlerai du petit chaperon rouge. Pourquoi chaperon rouge seulement chez...
Ben, chaperon rouge, tout simplement parce que justement, à 15 ans, les petites filles étaient obligées de se mettre leurs cheveux donc, dans un bonnet. Elles rentraient dans la classe de Catherinette, Sainte-Catherine. Hein, voilà. Donc là aussi, c'est vraiment toute une tradition. Hein, et ça leur permettait d'avoir des amoureux. Voilà, et d'aller au bal danser quand on rentrait à cet âge-là. Voilà. Donc, Perrault, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a très bien compris que, quand même, il y avait l'enjeu derrière de tout ce qui était le côté du sang, le côté des menstrues, le côté de l'interdiction de mettre les cheveux en place, etc. Mais il ne pouvait pas poser face à un public de la cour le côté cannibale, le côté des déshabillages, mais bien qu'il a gardé le déshabillage d'ailleurs. Dans tous les cas, il a supprimé tout ce qui pouvait être choquant et violent, et il a remplacé par un symbole qui, pour lui, recouvrait un peu tout ça. Il a mis de la couleur rouge, en fin de compte, couleur du sang, sur le bonnet qui interdisait de montrer ses cheveux.